Vous êtes sur RTL.
RTL, un ami, un fan de Charles Aznavour est avec nous ici dans ce studio. Bonjour Vincent Perrault, rebonjour.
Je suis effectivement à 360 degrés. J'étais fan, je suis devenu ami, c'est un bien grand mot, mais proche, ouais, en tout proche. Cas, sur la fin, et c'était un grand privilège. Mais vous disiez, on a l'impression d'avoir fait un mauvais rêve. C'est tout à fait ça. Parce qu'on s'est complètement habitué à le voir vieillir. Oui, c'est-à-dire il a passé le cap des 70, puis le cap des 80, puis le cap des 90 ans. Et puis, à force de l'entendre dire, parce qu'il me l'a répété plusieurs fois, il me dit, Vincent, vous serez là le jour de mes 100 ans, je serai sur scène fêter ça. Et on finissait par y croire.
Il
a fini par nous y faire croire.
Centenaire. Mais c'est vrai qu'on est presque surpris. Il avait 94 ans, mais on est presque surpris par sa disparition parce qu'il était là dans nos studios aux Grosses Têtes la semaine passée, en pleine forme. Il rigolait avec Michel Leb, qui sera notre invité à 8h20 la veille de son décès dans les Alpes. Très étonnant.
Moi, il m'avait toujours dit aussi, j'aimerais mourir en bonne santé. Bah, c'est finalement à peu près ce qui lui est arrivé. Une mort douce, calme, chez lui, dans son lit. Finalement, c'est quelque chose de formidable. Pour un homme qui voyageait tant, logiquement, il aurait dû disparaître dans une chambre d'hôtel au bout du monde. Eh bien non, vous voyez, c'est une boucle qui se boucle tranquillement, qui nous fait mal, mais au bout du compte, c'est assez serein, je trouve.
Est-ce qu'il y a justement un moment, vous qui l'avez côtoyé, vous étiez proche de lui, vous avez écrit un livre ensemble, vous avez tourné un documentaire sur lui, est-ce qu'il y a un moment, ou je sais pas, un moment de concert, un moment de discussion qui vous est immédiatement revenu en tête hier quand vous avez appris cette disparition?
Alors, il y a un moment, oui, j'étais allé le voir au Palais des Sports il y a quelques années, dans une salle un peu moins grande que Bercy, et c'était pas plus mal finalement, parce qu'il y avait quand même pour ce type de chanson une proximité obligatoire avec le public. Et j'avais eu la veille le premier exemplaire, l'exemplaire 0001 du livre qu'on avait fait ensemble, tiré de nos entretiens. Et lors de ce concert, il y avait évidemment beaucoup de monde, beaucoup de personnalités, des politiques. Laurent Gérard était d'ailleurs avec nous. Et je me retrouve dans sa loge pour lui apporter le premier exemplaire de notre livre. Et là, il s'assoit sur le canapé de sa loge, il commence à feuilleter le livre, et il regarde, il dit « Ah mais oui, mais c'est beau, c'est ce qu'on avait dit ». Il remarque le changement de photo sur telle page, sur telle page. Puis je lui dis « Charles, on regardera après, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, il y avait Michel Drucker, il y avait Bernadette Chirac qui attendait de l'autre côté de la porte ». Et au bout de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je lui dis « Charles, on vous attend, on verra ça ensemble ». Il me dit « Vous ne trouvez pas que ma vie résumée en quelques pages, c'est plus important que trois personnes qui m'attendent? Laissez-moi savourer ça ». Donc vous voyez, il y avait toujours du recul sur les choses et une sorte de paradoxe permanent lié au bonheur de vivre, en fait.
À l'écriture de ce livre, vous avez appris des choses que vous ne connaissiez pas de lui.
Ah mais vous pouvez pas imaginer, Marina. C'est-à-dire que, pour vous résumer la chose très vite, j'avais secrètement l'envie de faire un documentaire sur la carrière d'acteur de Charles. Parce que j'avais l'impression que sur la carrière de chanteur, on savait tout. Mm-hmm. On avait tout vu, tout lu, tout entendu. Et je trouvais qu'on mettait un peu de côté un talent énorme de comédien, qu'on n'en parlait pas assez. Je voulais résumer un peu ça. Et par l'intermédiaire d'un ami, j'ai été mis en contact avec lui sérieusement. Il a adhéré au projet tout de suite. Et là, s'est passée une chose étonnante, c'est qu'on a commencé à tourner des entretiens, comme pour tout documentaire. Sauf qu'on a commencé à tourner chez lui, dans les Alpilles, donc je connais bien sa maison, ses oliviers, son huile d'olive, etc. Mmh. On a tourné chez moi, ma production, je l'ai emmené à la Cinémathèque française, au Musée du cinéma. Et puis on a commencé à tourner 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 7h30 d'entretien en tête à tête.
Infatigable.
Et pour un documentaire de 52 minutes, j'avais beaucoup trop de choses. Et c'est après là où l'idée est venue de se dire, mais il faut exploiter tout ça. Parce qu'on est allé bien au-delà du cinéma. Il a parlé d'Edith Piaf, il a parlé de ses rencontres, on a parlé de politique, de l'Arménie, de tout. Et l'idée est venue d'écrire ce livre ensemble sous forme d'entretien avec beaucoup d'illustrations. Parce que quand il était parti à parler et qu'il avait confiance, on ne l'arrêtait plus.
Oui, très clairement. Et c'était toujours extrêmement passionnant. Vous nous racontez votre Charles Aznavour, Vincent Perrault. Juste, je voudrais vous faire écouter à tous cette réaction, parce que parmi toutes les réactions depuis hier, c'est peut-être celle qui nous a le plus touchés ici à la rédaction. On parlait des tournées de Charles Aznavour, puisqu'il s'apprêtait à repartir en tournée. Michel Sardou, lui, a dit stop. La scène, c'est terminé les concerts. Un tel stop, c'était impensable pour Charles Aznavour. Michel Sardou raconte, c'était hier soir sur RTL, écoutez.
Il m'a même engueulé parce qu'il me dit, on n'a pas le droit d'arrêter. C'est ta vie, c'est ton chemin, moi je m'arrêterai jamais. Ce qui me console, c'est qu'il est pratiquement mort sur scène. Et il est mort dans de bonnes conditions, en dormant, ce qui fait que il n'a pas souffert, il n'a pas eu le naufrage que nous connaissons tous à un moment donné. Et il est resté lui-même, il a continué à chanter, il a bien chanté. Et ça me console un peu. Il n'a jamais raté mes spectacles. Il m'a toujours dit la vérité sur mes spectacles, toujours dit la vérité sur mes chansons, mais d'une façon très amicale. Il écrivait des histoires. C'est ce qu'il m'a toujours appris. Il m'a dit, écris, raconte des histoires qui leur ressemblent. Le leur étant le public, bien sûr. Il faut que quelqu'un dans la salle se dise, mais j'ai vécu cette histoire-là. Il voulait que les gens se sentent concernés par la chanson.
Et nous étions tous concernés à un moment ou à un autre par ces textes,
mais
par ces paroles.
C'est pour ça que ça nous touchait tant.
Effectivement.
Bien sûr.
Vincent, je suis désolé de vous couper.
Allez-y.
Est-ce que on peut accueillir un auditeur avec vous? Parce qu'ils ont envie de dialoguer avec vous, les auditeurs. Ce matin, on a Philippe qui nous appelle depuis la Moselle au 3210. Bonjour Philippe.
Bonjour Julien.
Vincent Perrault est avec nous en studio.
Bonjour,
Philippe, racontez-nous un petit peu, c'était quoi votre Charles Aznavour? Est-ce qu'il y a des morceaux qui ont bercé votre existence? On a entendu beaucoup d'auditeurs depuis 4h30 nous dire qu'ils avaient reçu des lettres d'amour avec des paroles de Charles Aznavour, qu'ils s'étaient mariés sur du Charles Aznavour. Et vous, c'était quoi votre Charles Aznavour?
Vous venez de dire un mot qui m'a parlé, c'est concerné. Moi, j'étais pas fan de Charles Aznavour dans mon enfance. Moi, j'aimais que le rock, Johnny, Eddie et tout ça. Et puis, quand j'ai eu 35 ans, un jour, j'ai entendu « Désormais ». Et après, j'ai écouté « Je n'aurais jamais cru ». Puis, j'avais l'impression de lire des lettres que je me serais envoyées à moi-même. C'est-à-dire que ça faisait un effet miroir par rapport à ma propre vie. C'était d'une justesse. C'était écrit avec une beauté de la langue qui était sublime, des paroles sublimes, des chansons, des musiques sublimes, et puis des orchestrations dans les années 70 qui étaient pour moi insurpassables. Vous avez parlé de Michel Sardou tout à l'heure. Je trouve aussi que lui aussi, dans les années 70, c'est là qu'il était à l'apogée, parce qu'il y avait aussi un fabuleux orchestre derrière. Et c'était un tout, mais avant tout, c'était une introspection. C'est-à-dire que Charles Aznavour, il nous parlait à nous-mêmes et il nous faisait franchir des étapes intime par le biais de ses chansons. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu Charles Aznavour. J'en ai pleuré par moments. Mais c'était vraiment quelqu'un qui comprenait ma vie, alors qu'il ne me connaissait pas. c'est ça qui m'a le plus touché chez lui.
C'est effectivement, les mots étaient justes, Vincent.
Totalement justes. C'est pour ça qu'on avait toujours l'impression d'un petit film, d'ailleurs. Ses chansons ressemblaient à un court-métrage. Hein, et c'est la raison pour laquelle, sur scène, il les vivait intensément. Parce que moi, j'ai toujours considéré que, sur scène, c'était un acteur qui chantait. Et finalement, c'était aussi un chanteur qui jouait la comédie. Et il était tellement à l'écoute des gens et de son public et proche, ne vivant pas dans une tour d'ivoire. Je pense, je rejoins notre auditeur Philippe. C'est pour ça qu'il avait les mots si justes. C'est qu'il connaissait les préoccupations des gens de Monsieur Tout le Monde. Désormais que vous citiez, c'est une chanson sur la séparation, sur la fin d'un amour. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Il pouvait chanter l'amour comme la fin d'un amour, de la même façon. Ou Emmenez-moi, ou Une scène de vie, ou dans son dernier album La désertification des campagnes. Et il s'intéressait à tout. Un homme curieux, un enfant curieux jusqu'au bout. C'est quand même étonnant, cette faculté d'émerveillement qu'il
un
avait.
Enfant de 94,
ça m'avait toujours impressionné.
Effectivement.
Ça,
ouais. Tiens, désormais, pour vous, Philippe, et pour vous, Vincent.
Oui, j'aime beaucoup cette chanson.
De ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté, désormais ma voix ne dira plus je t'aime.
Avant de vous laisser, Vincent, vous qui aimiez aussi Aznavour, le comédien, parce que c'est 60-80 films.
Ah oui, et quel film ?
Avec Cocteau, avec Truffaut, avec Lelouch.
Ça ferait un
bon film, une vie formidable comme celle de Charles Aznavour.
Oui. Ah, ça pourrait faire un beau biopic, parce que n'oublions pas que c'est quelqu'un qui a connu le siècle entier. Et puis,
mais oui,
revenons
incroyable.
Au début, parce qu'il y a évidemment un phénomène de revanche à vouloir être le meilleur à tout prix. N'oublions pas le petit Arménien, le petit émigré qui est arrivé, qui ne savait pas parler français, qui ne savait pas lire, pas écrire, et qui a côtoyé les plus grands du monde, Sinatra et tous les autres. Même lui disait de temps en temps, vous rendez compte ce que j'ai réussi à faire.
Et c'est vrai qu'il y a une demi-heure, nous étions en ligne avec Juliette, qui nous appelait de l'Essonne. Elle a 86 ans, Juliette, et elle travaillait avec la maman de Charles Aznavour.
Franchement,
c'était formidable. Voilà, la maman de Charles Aznavour a cousu la robe de mariée de Juliette, et elle a connu finalement Charles avant qu'il ne soit lui célèbre.
Ouais, c'était un beau témoignage
magnifique. Ouais. Franchement, si vous l'avez raté, allez écouter le podcast des Petits Matins sur RTL.fr. Ça se passe vers 5h50 à peu près. C'est un moment absolument fabuleux. Juliette nous a éclairé sur une facette que l'on ne connaissait pas.
La famille, le clan Aznavour.
Exactement.
Mais vous savez, ça a continué après ses parents. Aujourd'hui encore, Aznavour, il y a un clan. Ses enfants, son fils Nicolas, avec qui j'ai travaillé, on s'organise. Tout d'un coup, on a affaire à la maman, à la femme, à un frère, à un fils. La famille Aznavour, c'est quelque chose de très important. Ça l'a soutenu jusqu'au bout.
Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de votre Charles Aznavour.